Donc j'ai été salariée 2 ans aux arts décoratifs, mais en fait c'est à la fin de ce poste qu'on m'a confié l'étude préalable. Donc c'est en tant qu'indépendante que je l'ai réalisée, ce qui peut changer des choses sur le rapport temps et temps de travail. En septembre 2008, un mécénat exceptionnel est donc pressenti pour entreprendre la conservation et la restauration du fonds Madeleine Vionnet. Cet ensemble patrimonial, on l'a vu, a la particularité d'être très complet. La lecture de l'inventaire mentionne, outre les robes phares, parmi les plus connues de la styliste, plus de 200 pièces textiles, donc des costumes, des accessoires, des échantillons. L'objectif initial de l'étude préalable qui nous a été demandée dans ce contexte était d'obtenir une estimation chiffrée de la restauration et du reconditionnement de l'ensemble du fonds pour la mise en place de l'opération de mécénat. Nous verrons que cette étude a été par la suite également utile à l'organisation du chantier des collections. Donc je vais tenter aujourd'hui de vous rendre compte de ce travail. J'évoquerai en premier lieu la méthode qui a été choisie parmi d'autres pour aborder cet ensemble. Je présenterai dans une seconde partie les résultats apportés par l'étude du fonds. Dans une troisième partie, je confronterai ces résultats à ceux de la mise en œuvre du chantier des collections. Cela me permettra de terminer cette présentation par une réflexion sur la pertinence des données qui peuvent être recueillies lors d'une étude préalable. Donc la première partie, on va commencer par le choix d'une méthodologie. L'idée d'approcher le fonds par sondage ponctuel ou par le biais d'échantillons représentatifs de l'ensemble a été rapidement abandonnée au vu de la variété des créations. Variété à la fois des objets, parce qu'on avait donc des sacs, des échantillons de tissus, robes de jour, robes du soir, variété des matériaux employés par Vionnet, mais également de l'origine des pièces, de leur parcours matériel, de leur datation et de leur état de conservation. Pour appréhender cette hétérogénéité, il m'a semblé nécessaire d'avoir un contact direct avec l'ensemble de la collection. Cependant, la quantité impliqué de s'astreindre à une observation rapide et systématique des pièces conservées au sein des réserves du Musée des Arts Décoratifs. Comme point de départ, pour organiser ce travail, un temps d'observation moyen par pièce a été fixé à 20 minutes. Ces 20 minutes comprenaient la localisation, l'extraction du costume, son observation et son reconditionnement. C'est un temps court qui devait être optimisé par l'enregistrement le plus systématique possible des observations. En amont, le choix et la définition des termes ou critères qui allaient être utilisés pour établir le constat d'état et le diagnostic a donc été important. Ce travail préalable demande de revenir sur des notions élémentaires, mais elle permet de donner sa stabilité à l'analyse ensuite. On se donne un cadre fixe d'évaluation, arbitraire, mais qui, une fois l'étude entamée et l'observateur un peu noyé dans la matière, va servir de repère. En premier lieu, on a donc établi des critères relatifs à l'état général, donc excellent, bon, moyen, etc. La définition sert à rendre ces notions courantes les plus concrètes possibles. Bon, à la façon des couleurs, hein, l'appréhension est souvent subjective. Un état moyen ne désigne pas forcément la même chose pour deux personnes. Voici le tableau des critères relatifs ensuite à la nature des problèmes rencontrés et aux interventions requises, donc rien que de très classique. En ce qui concerne le traitement, ce sont systématiquement les options de restauration les plus poussées, les plus complètes, qui ont été indiquées. Donc, au final, le conservateur pouvait décider de ne pas toutes les retenir. En ce qui concerne la durée estimée du traitement, j'ai établi une estimation en jours, ainsi qu'une estimation en temps moyen. Ces catégories de durée ont été créées pour rendre plus lisibles les données et permettre ensuite de mieux regrouper et coordonner les opérations, notamment de distinguer rapidement les traitements rapides des traitements lourds. Voici ensuite les critères relatifs au mode de stockage observé sur place, sur cintre, à plat. En parallèle, la présence d'un problème de conditionnement pouvait être signalée. Donc voilà les superpositions de costumes, etc. Sur cette diapo apparaissent les termes concernant les besoins requis pour le conditionnement, des boîtes, avec ou sans plateau, pour la manipulation de la pièce, en fonction de la fragilité du costume et des cintres rembourrés. Donc pour répondre au problème du rembourrage des costumes lors de leur conditionnement à plat, donc j'avais effectivement envisagé la fabrication de boudins. Moi, j'avais pensé en taille vec et polyester. Donc ça est théorique, hein, parce qu'on est bien en amont. Ces boudins devaient permettre de remplacer le papier de soie, qui vieillit vite mécaniquement et perd sa qualité de rembourrage. Je crois qu'on a tous en tête la vision de monticules de papier de soie qui s'accumulent en boule au fond des tiroirs. Enfin, des supports spécifiques étaient envisagés dans le cas des accessoires, mais qui sont beaucoup moins nombreux dans le fond. Donc voilà la base théorique sur laquelle je suis partie. Donc après cette entrée en matière un peu fastidieuse, je vais maintenant aborder concrètement le mode d'enregistrement des données qui ont été recueillies. Une fois dans les réserves, lors de l'observation, toutes les données ont été consignées directement sur un tableur Excel. Donc voici une vue d'ensemble du tableau, un peu effrayante et peu lisible. Vous pouvez cependant distinguer les encarts de couleur qui désignent les différentes parties du tableur inhérentes au constat d'état en vert, aux propositions de traitement en rouge et conditionnement ensuite en gris et violet. Donc ici, je fais un focus sur la partie constat d'état. Je ne suis pas sûre que vous arriviez à lire, mais enfin bon. Vous arrivez peut-être à voir que les colonnes correspondant aux critères que j'ai évoqués précédemment ont été subdivisées en deux sous-colonnes. Dans la partie constat, la première sous-colonne est cochée 1 ou 0 selon l'existence ou non du problème. Est-ce qu'il y a une salissure, une usure des fibres constatée ? On s'approche encore, cette fois, dans la zone consacrée aux propositions de traitement. Dans la partie proposition, on a indiqué dans cette première sous-colonne la fraction de temps estimée pour chaque opération. Alors, j'ai utilisé des fractions de journée, 0,12 temps égal à 1/8 de journée, soit 1 heure, 0,25 2/8 soit 2 heures, bon, pour faciliter le calcul ensuite. Donc cette sous-colonne a servi à l'évaluation quantitative. Nous voici à présent dans la partie consacrée au conditionnement. La seconde sous-colonne était réservée, vous l'aurez compris, aux notes prises pour apporter des précisions, indiquer par exemple, dans le cas du constat d'état, si le problème est d'ordre ponctuel ou global, etc. Donc les estimations quantitatives extraites des premières colonnes ont permis d'obtenir les données chiffrées pour déterminer le temps et le coût des interventions. Elles ont permis également d'extraire des données statistiques. Les notes de la seconde colonne, d'ordre plus qualitative, devaient permettre aux acteurs de la conservation de disposer d'une grille de lecture du fond avec une vue pour chaque pièce. Alors, j'entends par vue un constat d'état sommaire qui rend compte de la nature des problèmes observés sur l'œuvre sans que l'étendue de ces problèmes n'ait pu être parfaitement appréhendée durant l'observation, qui se limitait à plus ou moins 10 minutes en fonction des objets, de la facilité de manipulation. L'enregistrement de ces données, objet par objet, est donc un travail assez fastidieux, mais il permet d'avoir une approche de l'ensemble que l'on pourrait qualifier de globale, c'est comme ça que je l'ai appelé, par opposition à une approche ponctuelle ou par sondage. Donc on peut tout de suite se poser la question des limites de cette approche. Lors du rendu de l'étude, il est important de repréciser au commanditaire, en tout cas c'est ce que j'ai fait, la valeur des réponses qu'il va y trouver, de souligner notamment la distinction entre les estimations de temps indiquées de celles que l'on pourrait établir lors d'un devis ou d'un constat d'état détaillé. Cette précision a été d'autant plus importante à faire puisque ce travail a été réalisé spécifiquement avec deux grandes inconnues, la première étant la finalité de la restauration pour chaque pièce, tel costume va-t-il être exposé ou non, si oui, va-t-il être mannequiné ou montré à plat. Cette donnée est déterminante, nous le savons, quant au choix du type de restauration. Dans l'incertitude, le traitement qui a été proposé pour chaque pièce, je vous l'ai dit, était le plus complet possible. L'autre grande inconnue était le budget à considérer. Vous n'ignorez pas, sur une même œuvre, l'écart de coût entre un simple geste préventif et une restauration fondamentale peut être abyssal. N'ayant aucune idée préalable sur le montant du mécénat, j'ai préféré m'orienter vers un résultat de coût qui pouvait se révéler confortable et sur lequel on pouvait établir des coupes. Dans les conditions d'observation que j'ai indiquées, qui impliquaient une marge d'imprécision des résultats, j'ai choisi cette option pour éviter une erreur d'appréciation inverse, à savoir indiquer un budget qui se serait révélé au final insuffisant, trop court, pour assurer un minimum requis pour la conservation de l'ensemble. La méthode aurait été autre au cas où l'on aurait disposé, évidemment, dès le départ, d'une enveloppe budgétaire. Le temps évalué dans ces conditions reste donc indicatif et ne peut se substituer à une observation approfondie. On peut considérer qu'il s'agit d'une moyenne qui possède de solides bases, certes, puisque toutes les œuvres ont été vues, mais qui doit être livrée comme telle au commanditaire de l'étude. Je dois préciser par ailleurs que le temps qui m'a été imparti pour cette étude, 15 jours en tout, je n'ai pas abordé la réflexion sur les solutions de rationalisation du temps et du budget, donc travail réalisé ensuite en interne par Maximilien Durand, que j'écris toujours avec un T, pas avec un D à la fin. Nous allons maintenant aborder les réponses qui ont peut-être été apportées par cette étude. Donc nous allons voir l'évaluation générale, le diagnostic des dégradations qui ont été observées, bon, ça recoupe un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, et l'estimation globale du temps et du coût du chantier des collections auxquelles je suis arrivée dans un premier temps. Voici une vue de l'état de conservation de l'ensemble présenté sous la forme d'un camembert. On constate un certain éclatement de la figure qui révèle un état de conservation non homogène de l'ensemble. 58% du fond était en excellent ou bon état, c'est-à-dire ne requérant que de courtes interventions. 19% présentait en revanche de très graves problèmes de conservation et nécessitaient des interventions longues ou complexes, et ou complexes sans lesquelles les costumes ne pouvaient être exposés. Sur cet autre camembert, nous pouvons voir que les problèmes les plus récurrents rencontrés sur les pièces étaient l'usure des fibres, donc pouvant aller jusqu'à la rupture des fibres, j'entends aussi fente, lacune, l'empoussièrement ou la présence de salissures et les problèmes de plis, ces problèmes étant évidemment parfois liés. Donc on note au contraire la faible proportion des problèmes de décoloration ou d'attaque biologique dans cet ensemble. Ce diagnostic peut être en partie expliqué, je prendrai l'exemple des deux phénomènes les plus importants au sein du fond. L'usure des pièces dégradées, qui concerne 83,5% du fond, elle tient pour beaucoup au caractère de la création de vionnets, c'est-à-dire à la mise en œuvre de tissages souvent fragiles, qui sont de surcroît souvent coupés dans le biais, avec en outre, parfois, un choix de garniture pesante. Voici le cas d'une dégradation extrême que l'on a pu observer. Donc le crêpe de soie, il me semble que c'était un crêpe, je ne suis pas sûre, a cédé sur toute la partie supérieure de la robe en raison du poids de la broderie. La déformation des tissus, plis, froissement, écrasement des textiles concernait 60% du fond. Elle est liée en grande partie au parcours matériel et au conditionnement des costumes. On a pu constater, par exemple, que les costumes conservés à plat dans les tiroirs étaient souvent superposés par 3 ou 4, ce qui avait provoqué l'écrasement des textiles. Souvent réversible, ce type de dégradation alourdit néanmoins de façon conséquente le temps global des interventions. Donc on arrive aux données qui étaient attendues. Les données chiffrées livrées en conclusion de cette étude avaient une allure pharaonique. Donc moi j'ai calculé, j'ai essayé de faire un rapide calcul avec ce que tu nous as donné tout à l'heure, 1374 jours de restauration, qui ont été estimés nécessaires pour la restauration de l'ensemble des pièces. Le coût de la restauration a été calculé à partir du tarif horaire d'un restaurateur de textile diplômé, qui au moment de l'étude se situait aux environs de 50 euros hors taxe de l'heure. Ça n'a pas bougé. On a considéré un tarif journalier maximum de 400 euros pour arriver à un coût total donc de 549 600 euros hors taxe. La documentation et la rédaction des rapports de restauration sont comptés dans cette évaluation à raison d'une journée par œuvre. Concernant le reconditionnement du fond, les solutions envisagées se déclinent comme il suit. La mise en boîte des costumes, donc 9 140 euros, là il s'agissait de Cloug aussi, la fabrication de supports spécifiques réalisés par des restaurateurs pour les accessoires ou les échantillons textiles conservés dans le fond. Et 2500 boudins rembourrés ont été estimés nécessaires pour le bon conditionnement des costumes, donc, ce qui représente un budget assez lourd. Alors, j'ouvre une parenthèse. Après une étude rapide, je m'étais arrêtée sur un fournisseur qui proposait un coût de 4,20 € par unité. Donc le coût d'ensemble du reconditionnement des œuvres du fonds Vionnet était estimé au total à 28 874 €. Donc un petit rappel des principaux chiffres. Alors 210 costumes, c'est le chiffre avec lequel j'avais démarré. Ça a été un petit peu arrondi ensuite. Dont 32% en excellent état, soit 68% des œuvres qui requéraient au moins une intervention. On devine dès à présent toutes les variations possibles pour modeler le budget autour de cette base. Pour vérifier la fiabilité de l'étude, je vais aborder à présent la dernière partie de cette intervention, consacrée à la confrontation des résultats de ce travail avec la réalisation du projet. €500 000 ont été au final alloués à ce projet pour la restauration de l'ensemble des œuvres du fonds Vionnet, dont €20 000 ont été consacrés à son reconditionnement. On constate donc, pour le budget consacré à la restauration, un écart notable, mais pas incohérent, puisque l'estimation budgétaire se basait au départ sur le prix de journée d'un restaurateur indépendant. Le travail de rationalisation des opérations de restauration mené en interne par Maximilien Durand a permis d'optimiser le budget du mécénat par la répartition du travail entre les ateliers du musée et les restaurateurs externes, il vous l'a dit, grâce à une étude spécifique menée pour certaines opérations, donc je pense notamment au nettoyage, qui a permis un traitement en masse des pièces. Ce traitement en masse qui a permis par ailleurs de négocier les prix auprès de certains fournisseurs. Pour le budget lié au conditionnement, la solution des boudins et des boîtes a été retenue, mais la création de supports spécifiques pour les accessoires n'a pas été envisagée. Ce dernier poste représentait une marge importante du budget, environ 7 000 €. Le budget prévu au départ pour le conditionnement s'est donc révélé assez proche de celui alloué au final. Du point de vue de la durée des traitements, on peut considérer que la majorité des estimations se sont révélées fiables. Maximilien nous a indiqué qu'un réajustement a été nécessaire sur une quinzaine de pièces, dont le traitement a été plus long que prévu, c'est-à-dire qu'on est passé des catégories restauration courte à restauration moyenne pour certains et restauration moyenne à restauration longue pour d'autres. Ce fait est probablement imputable au temps d'observation passé par pièce. Ça représente une marge d'erreur d'environ 7%. Ce type d'approche globale s'est donc révélé plutôt fiable. À mon sens, il est possible d'optimiser la précision des résultats en jouant sur le temps passé par objet. La cadence de travail, en effet, a été très soutenue et je dois préciser que j'avais, dans le cas de l'étude du fonds Vionnet, une bonne connaissance des réserves du Musée des Arts Décoratifs, ce qui représentait un gain de temps précieux. Dans l'absolu, il semblerait que les erreurs inhérentes à ces conditions d'observation se soient cependant bien équilibrées sur l'ensemble. Je terminerai par l'analyse des données d'ordre qualitatif qui ont pu être obtenues. Quelques-unes de ces données sont présentées dans le PowerPoint qui accompagne mon intervention aujourd'hui. Ce sont des photos caractéristiques, des schémas synthétiques et la base de données extraite du travail sur Excel. Alors, le rapport comprenait également un descriptif simple des interventions en restauration des matériaux textiles. Je vous en ai fait grâce aujourd'hui. Tous ces documents ont pu être employés à titre d'argument pour la demande de mécénat. Ce sont des informations didactiques et compréhensibles par tous, pas uniquement destinées à un spécialiste de la conservation. Pour le musée, l'étude préalable représente également une vaste étape de défrichage, incontournable, pour la mise en place d'un chantier des collections aussi vaste. À la suite de l'exposition, j'ai interrogé Maximilien sur le rôle joué par l'étude lors du chantier. Il m'a effectivement indiqué qu'elle avait constitué un outil de travail durant toute la durée du chantier, en servant de cahier de référence, permettant d'obtenir à la fois des informations objet par objet, mais de faire également très simplement des recoupements. Par exemple, combien de costumes devaient être nettoyés, etc. L'étude préalable est un travail long, ce qui suppose un coût pour une institution, mais elle permet d'obtenir une documentation prospective pour étayer la demande d'un mécénat ou l'attribution d'un budget dans une administration, et de disposer d'une base d'informations sur la collection envisagée qui peut servir de grille de lecture pour une meilleure gestion d'un chantier de conservation ensuite. L'objectif de cette communication, à travers le cas de l'étude consacrée au fonds Madeleine Vionnet, est de nourrir une réflexion commune sur le rôle de l'étude préalable au sein d'une institution patrimoniale et de s'interroger plus particulièrement sur les méthodes qui peuvent être employées pour évaluer l'état de conservation d'un ensemble important. La méthodologie repose bien sûr sur la nature de la collection envisagée, mais elle est également déterminée par le type de réponse attendue par le commanditaire. Dans le cas du fonds Vionnet, la difficulté a reposé sur l'absence d'indications concernant à la fois le budget et la finalité de la restauration de chaque objet, toutes les pièces ne pouvant être présentées lors de l'exposition. La méthode d'approche globale d'un ensemble que je vous ai présenté a permis d'obtenir d'assez bons résultats pour la construction d'une enveloppe budgétaire moyenne et la gestion du chantier des collections. Avant de terminer cet exposé, je tiens à ajouter qu'au-delà des aspects techniques que nous avons vus aujourd'hui, qui j'espère n'ont pas été trop rébarbatifs, ce travail, bien qu'éprouvant, m'a donné une occasion unique de découvrir l'ensemble de la collection conservée au Musée des Arts Décoratifs, l'ensemble de la collection Vionnet. Tiroir après tiroir, j'ai pu approcher, toucher toutes les textures choisies par la styliste, ce qui est un des grands avantages du métier de restaurateur, je ne vous le cacherai pas. Ça a été pour moi une approche intense, mais assez savoureuse et privilégiée de la création de Madame Vionnet. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Pas si le, oui, si le micro marche. Je voulais juste ajouter une toute petite chose à l'intervention d'Emmanuel qui était vraiment très claire et très, très, très bien. Alors effectivement, l'enveloppe qui a été allouée au projet, c'est une enveloppe de 500 000 euros qui n'était pas allouée seulement aux restaurations textiles. C'est-à-dire que les 500 000 euros
c'était
devaient servir...
C'était pas très clair en fait pour voilà. Moi. C'est, ouais.
Dans le réalisé, les 500 000 euros ont servi à restaurer l'ensemble des robes, les 13 000 prises de vue des albums de dépôt de modèles, les 2 000 plaques de verre ont financé la campagne de nettoyage, tout le conditionnement et pour moitié le colloque auquel vous assistez aujourd'hui.
Alors, je préciserai aussi que, quelle que soit l'ampleur des choses qu'il faut rajouter dans cette enveloppe de 500 000 euros, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels ici de la conservation-restauration. Pour les autres qui ne savent peut-être pas, c'est quand même pas une enveloppe très classique. Il y a des grandes campagnes de restauration, mais il s'agit quand même d'un projet, je crois, d'une ampleur assez exceptionnelle. Et je tiens aussi à saluer Emmanuel parce que je crois que on peut dire que le temps qui lui a été imparti pour cette étude est quand même assez bref, compte tenu de l'ampleur de la collection, mais aussi des objectifs et des attentes très, très élevées qu'il y avait autour de ce projet.